Radio Grand Ciel présente Histoire et Mémoire, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Laure Aveau. Au micro, Christiane Blain. Je suis très heureuse de recevoir Marie-Josée Michel, historienne française, docteure en histoire et titulaire d'un doctorat d'État en lettres et sciences humaines. Elle est officier de l'Ordre national du mérite, chevalier de la Légion d'honneur, médaille d'or de la Renaissance française. Une historienne qui a écrit de nombreux ouvrages sur le jansénisme et dirigé de nombreuses thèses sur ce thème. C'est pourquoi je me réjouis de la recevoir aujourd'hui. Marie-Josée Michel, bonjour.
Bonjour.
Le jansénisme est un phénomène français né au XVIIe siècle et dont on parle encore aujourd'hui. Alors, pourquoi ce travail ? Pourquoi le jansénisme ?
C'est une grande question là, que vous me posez.
Bien sûr.
Quand on choisit de faire une thèse, on sait qu'on va passer au moins 4 ans, voire 10 ans, voire 12 ans sur un sujet.
Ce fut ce temps-là.
Ce qui fut le cas. Là, comme c'était une thèse de doctorat d'État, j'y ai passé 15 ans, tout en ayant une activité professionnelle en même temps d'enseignante.
Je comprends que vous ayez écrit des ouvrages sur le jansénisme.
Voilà. Alors, quand on se lance en histoire dans un sujet de recherche, il faut qu'il y ait une accroche. Il faut qu'il y ait une envie.
Bien sûr.
Parce que c'est un travail qui est tellement compliqué. C'est un combat, en fait, presque de tous les jours. On y passe une partie de toutes ses soirées. Une partie de ses vacances. Donc, on n'arrive pas au bout d'une thèse et d'une grande thèse si on n'a pas choisi un sujet qui vous tient tout à fait à cœur. Or, la réponse, pour moi, était simple. J'ai eu une vraie fascination au cours de mon enseignement secondaire, une fascination pour Blaise Pascal, que je considère comme un être exceptionnel, un surdoué, à la fois un grand philosophe, un grand scientifique et en même temps un mystique. J'ai donc eu une véritable accroche pour Pascal et il se trouvait que, en plus, géographiquement, j'étais très souvent en vallée de Chevreuse, à 10 km du site de Port-Royal.
Ah là là.
Voilà.
Oui.
Donc il y avait.
On comprend.
Il y avait tout ce qui pouvait être nécessaire pour avoir une véritable interpellation. Et en même temps, au moment où je me suis inscrite pour faire ces travaux de recherche, c'était le tout début de la relance de la recherche en histoire religieuse par le monde universitaire français. On était dans les années 80, 90. Et on essayait de prendre à bras-le-corps tous les sujets les uns après les autres. Et Jean Delumeau, à ce moment-là, avait dit « L'un des grands sujets qu'il faudrait absolument décrypter pour la France d'Ancien Régime, c'est le jansénisme. Mmh. » Mais tous étaient d'accord pour dire que c'était un océan sans balises. Un sujet complexe qui vous échappe, qui est à la fois fascinant, qu'on a le sentiment d'accrocher, d'appréhender, de comprendre à partir d'une chronologie, à partir de quelques personnages, mais qui en même temps vous échappe et qu'on ne comprend pas de l'intérieur. Et le pari, c'était donc de comprendre pourquoi, dans la France d'Ancien Régime, au XVIIe siècle, il y avait eu et Versailles, avec tout ce que ça comporte, et à moins de 20 km de Versailles,
oui, c'est ça.
Port-Royal, détruit par Versailles, détruit par Louis XIV, alors que c'était l'un des lieux et de spiritualité et d'intelligence le plus poussé de tout le royaume de France. Voilà pourquoi.
Oui. Oui, c'est sûr que c'était une interrogation normale.
Complètement normale pour quelqu'un qui veut travailler et qui veut être historien ou historienne et qui veut travailler sur l'Ancien Régime. C'était vraiment un des sujets centraux de la dynamique de la France d'Ancien Régime.
Oui. Des saints ou des monstres ?
Des saints ou des monstres, et effectivement, les travaux de recherche ont montré qu'ils ont été à la fois des saints et des monstres. Tout dépendait, en fait, du regard qui était posé sur eux et du point de la société d'où on les regardait.
Oui, c'est ça. Donc, ils ont pu même apparaître comme des martyrs.
Tout à fait. Alors, en fait, c'est une très belle histoire. C'est une histoire compliquée, mais une fois qu'on en a fait le tour, on peut le résumer en quelques mots. En fait, c'est un certain nombre de personnages. Ça se situe dans un décor qui est le décor du XVIIe siècle, oui. Du premier XVIIe siècle, du XVIIe siècle baroque, oui. Du XVIIe siècle de Louis XIII, qui est un XVIIe siècle qui est dur, qui est en cours de construction. On n'est pas encore dans la monarchie absolue, on n'est pas encore dans Versailles, on est avant, on n'est plus dans le Moyen-Âge, mais on n'est pas encore dans le très beau XVIIe. Et dans cette période apparaissent donc toute une série de personnes, d'ecclésiastiques. Alors il y a en Flandre Janssen, en France il y a Saint-Cyran, qui est un directeur spirituel extrêmement brillant. Il y a Antoine Arnauld. Il y a donc toute une série de personnages extrêmement forts qui sont à la fois des ecclésiastiques ou des religieux qui font des travaux exceptionnels, qui sont tous au niveau de thèses de théologie. Et puis, à côté, il y a ce double monastère de Port-Royal de Paris et de Port-Royal des Champs, où se trouve une soixantaine de religieuses qui vivent vraiment déjà de l'intérieur la réforme telle que le Concile Vatican I le propulse. Donc c'est un lieu monastique tout à fait exceptionnel et fascinant. Et du coup, cet ensemble, ce mouvement de ces deux lieux, de Port-Royal de Paris, Port-Royal des Champs, l'influence de Janssen, l'influence de Saint-Cyran, d'Antoine Arnauld, va déclencher une attractivité. Les intellectuels de l'époque, les grands artistes de l'époque vont être fascinés par ce microcosme où on trouve à la fois des gens qui sont des très grands chrétiens et qui le vivent en plénitude et qui sont en même temps des grands intellectuels. Et d'où l'attraction par Port-Royal, attraction de Pascal, de la famille de Pascal, mais de la famille de Racine et toute une série d'autres familles de nobles de robe ou de nobles d'épée qui vont être littéralement fascinés par ce lieu de vie et d'éducation et même de formation, puisque se créent des petites écoles à Port-Royal autour de l'abbaye des religieuses. Alors simplement, cette réalité, elle naît autour de 1640, et en fait, ce phénomène ne dure que jusqu'en 1730. Il y a quatre étapes successives. Il y a le temps de la naissance, il y a le temps de l'apogée, au tout début du règne de Louis XIV, et puis très vite arrivent les persécutions, et finalement la mort et la résurrection du courant, avec une avalanche, je dirais, de condamnations, qui sont des condamnations qui viennent de Rome, mais qui sont relayées par la monarchie absolue française. Alors il y a une première vague de persécution dans les années 1653, au moment des provinciales de Pascal. Et puis surtout, il y a la mise à mort du courant, il y a la destruction de l'abbaye de Port-Royal en 1709, les religieuses sont dispersées, envoyées dans d'autres couvents, condamnées. Et puis, même le site de Port-Royal est labouré, les tombes sont profanées et le mouvement est condamné par Rome sous forme d'une bulle, qui est la bulle Unigenitus de 1713. Donc, en réalité, ce groupe, ce mouvement, ce courant ne vit que 90 ans officiellement.
Mais certains vont s'en emparer, c'est ça?
Voilà, mais il a un impact extraordinaire parce que toute une partie des ecclésiastiques qui font des études de théologie sont fascinés par le phénomène de Port-Royal, du jansénisme, de Saint-Cyran, qui est un très grand directeur de conscience. Et on note et on voit apparaître en France, dans toute une série de villes de province, des microcosmes qui vivent à la manière de Port-Royal ou qui vivent comme les jansénistes le souhaitent.
Et on sait combien d'habitants, enfin combien de...
Alors on a une population au XVIIe siècle en France qui passe de 17 millions à 20 millions d'habitants. Et quand on atteint à la fin du XVIIe 20 millions d'habitants, on peut estimer qu'il n'y a pas tout à fait 1 million de personnes qui ont été touchées par le schéma éducatif, la liturgie et la la manière de vivre sa foi, je dirais entre guillemets, de manière janséniste. Pas de manière protestante, on est dans l'Église catholique, mais c'est dans l'Église catholique un courant rigoriste, austère, extrêmement sérieux, extrêmement intériorisé, extrêmement engagé. Pour résumer, on ne plaisante pas avec Dieu, on ne peut pas jouer. On est aux antipodes, si vous voulez, de la manière dont peut-être l'Église a fonctionné à la cour, en acceptant par la casuistique beaucoup de compromissions, beaucoup de dérapages. Là, il y a une volonté de pureté intérieure. Alors, en quelques mots, la vision du monde des jansénistes, c'est que l'homme, à l'image donc de la pensée de saint Augustin relayée par Janssen, c'est que l'homme en fait n'est pas bon naturellement, il est plutôt naturellement entraîné vers la faute et vers le mal. Et le salut vient de Dieu, l'homme doit passer en fait sa vie à faire un effort pour accéder à un véritable salut réalisé. Voilà. Alors donc ça c'est la vision de l'homme. Et la vision de Dieu, c'est un Dieu avec lequel on ne plaisante pas, parce que c'est un Dieu qui est passionné par la nature humaine, passionné par l'homme et la femme, et qui en attend beaucoup, en attend une excellence de vie. Voilà. Et alors, l'autre élément de la vision des jansénistes, en dehors du fait qu'ils se sentent plutôt naturellement pécheurs et avoir à faire un effort sur leur propre vie, et un Dieu qui est un Dieu passionné, fougueux et qui attend tout de l'humanité, il y a aussi une vision du coup du monde qui est assez négative. Le monde est plutôt le lieu où circule le diable et dont il faut a priori se méfier. Voilà les grandes lignes de cette réalité et du dossier. Donc en fait, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui vivent un catholicisme austère, rigoureux, intellectuel, intelligent, et qui se démarque du coup de Versailles, de la cour, des plaisirs de la cour, des divertissements, des compromissions, sans pour autant être protestants. Oui. Ils ne sont pas protestants, ils le disent, ils sont dans l'Église catholique, mais avec une exigence et une intériorité qui leur est toute particulière.
Ça, on le comprend aisément. Hein. C'est, en fait, ça existe encore, hein, ce phénomène.
Ça a toujours existé, c'est récurrent. Quand vous faites une analyse de l'histoire de l'Église, vous vous rendez compte qu'à intervalles réguliers, il y a des périodes de relâchement et il y a des périodes de reprise et de volonté de réforme intérieure, de reprise en main, de réformation. Il n'y a pas que la réformation de la fin du Moyen-Âge et du début du XVIe siècle.
Alors on s'est demandé des saints ou des monstres.
Voilà. Alors en fait, ce qui s'est passé, cette histoire qui dure 90 ans, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que à chaud, à côté du dossier, il y a eu des polémiques en même temps, des polémiques pour et des anti. Les jésuites se sont très vite rendus compte qu'il y avait là une possibilité d'être dans la société et une possibilité d'être catholique qui prêtait le flanc à la critique. Et donc, les jésuites se sont très vite emparés du dossier et ont fait une analyse des pères fondateurs du jansénisme. Ils les ont présentés tout de suite, à chaud, comme des monstres spirituels et les membres comme des êtres petits, tordus, vils, calculateurs. On le retrouve, et tout ça a été publié, et tout ça a fait l'objet, à chaud, de gravures, de satires, d'almanachs satiriques. Mais du coup, les jansénistes, étant attaqués, ont riposté pour insister, pour montrer qu'en fait de monstres, c'était plutôt des saints et des saints persécutés, qu'il s'agisse de saint Cyran, qu'il s'agisse de Janssen, qu'il s'agisse de mère Angélique Arnaud, la fondatrice, enfin la réformatrice de l'abbaye de Port-Royal.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Et alors, à froid, que s'est-il passé?
Et c'est là la grande surprise. C'est-à-dire que le courant janséniste, en tant que tel, disparaît et condamné en 1713, s'éteint visiblement dans les années 1730, mais pour autant, il va continuer de faire l'objet de réactions, alors que les individus, pour la plupart d'entre eux, sont décédés, ont disparu. Et donc, pendant le 19e siècle français, et même déjà dès la seconde moitié du 18e, on continue de parler du jansénisme, des jansénistes de Port-Royal. Ce ne sont plus les jansénistes qui parlent, mais ce sont d'autres qui parlent à leur place.
Oui.
Et en particulier les philosophes des Lumières, qui vont être les premiers, en particulier Montesquieu, Voltaire, qui vont...
Surtout Voltaire.
Surtout Voltaire. Qui vont se sentir en connivence avec l'esprit de Port-Royal, avec l'esprit du jansénisme.
Oui.
Parce que le courant janséniste a été persécuté par la monarchie absolutiste. Or, les philosophes des Lumières dénoncent la monarchie absolue et la non-séparation des pouvoirs. Donc, les philosophes se sentent en connivence avec ceux qui étaient les gens de Port-Royal.
Bien sûr.
Même s'ils ne l'écrivent pas, mais ils le disent et le font savoir. Et puis, après la Révolution française, normalement, on ne devrait plus jamais parler des jansénistes, puisque 2, 3, 4, 5 générations sont passées.
Oui, c'est ça qui est assez extraordinaire, que ça continue.
Et ça continue, c'est-à-dire que les concepts de Port-Royal, de jansénisme, de Pascal janséniste, de Racine janséniste, continuent d'affleurer. Et là, la responsabilité, on revient, je dirais, à plusieurs partenaires. D'abord, les premiers responsables, entre guillemets, c'est l'épiscopat français et les membres de l'épiscopat français qui, pendant tout le 19e et une partie du 20e siècle, vont traquer les signes concrets de la présence du jansénisme dans les mentalités, dans les catéchismes, dans les prédications.
Ils ont refait les catéchismes.
Ils les refont. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les jansénistes ont tellement travaillé, publié à Port-Royal, faisant la traduction, la première traduction de la Bible en français, à la fois l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais ils ont aussi énormément écrit, énormément publié, inspiré des sermons, inspiré des relectures de la Bible, des commentaires de la Bible, que toute une partie des docteurs en théologie qui sont formés au XVIIIe siècle et au tout début du XIXe siècle vont se servir de matériaux qui sont des matériaux qui ont été fabriqués par les intellectuels de Port-Royal. Et donc l'épiscopat français au XIXe va partir à la traque dans les mentalités populaires de la trace, de la marque, de l'empreinte janséniste, c'est-à-dire de cette empreinte de rigueur, d'austérité, de distance par rapport à la communion, dans un souci d'humilité, dans un souci d'indignité. Et l'épiscopat français va même jusqu'à dire que s'il y a un début de déchristianisation à partir des années 20, au XXe siècle, dans les années 20, les années 30, et encore plus après la Seconde Guerre mondiale, c'est parce qu'il y a eu une empreinte janséniste austère à l'intérieur de l'Église catholique et qu'il faut absolument éradiquer cette marque et cette empreinte. Donc, l'Église catholique, via son épiscopat, va continuer de traquer et de parler du jansénisme, comme quelque chose qu'il faut absolument éradiquer. Et s'il n'y avait que l'épiscopat, mais il y a aussi le monde de la littérature française du 19e et du 20e siècle qui est fasciné et qui s'emballe pour des Pascal, des Racine. Et on voit toute une série de grands auteurs du 19e et du 20e siècle qui vont être hantés par Port-Royal. Stendhal est tenté par Port-Royal dans Le Rouge et le Noir.
Ah oui.
Sainte-Beuve écrit un Port-Royal monumental. Henri de Monterland, tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Port-Royal et où il met en lumière l'intelligence et la façon dont les religieuses de Port-Royal résistent à la persécution et leur grandeur d'âme. Donc, il y a une sorte de convergence qui fait que, et l'épiscopat, et les grands intellectuels français de la littérature continuent de parler et de faire un sort au jansénisme et à Port-Royal au 19e et au 20e. Et le clou final, c'est même les politiques. Le Parti républicain...
On n'y pensait pas.
Et on l'a découvert, en fait, à la fin des recherches sur le jansénisme. On s'est rendu compte, en étudiant les manuels scolaires de la Troisième République, que les manuels scolaires de la Troisième République, dans les pages d'histoire, faisaient un sort à Henri IV, à Charlemagne, à Louis XIV, à Napoléon, mais faisaient un sort à Port-Royal et les présentaient comme des victimes, comme des victimes de la monarchie absolue. Alors on s'est dit, mais pourquoi parle-t-il encore à la fin du 19e et au début du 20e siècle? Pourquoi dans les manuels font-ils un sort au jansénisme? Mais c'est pour des raisons en fait qui sont politiques. C'est pour asseoir la Troisième République, qui est encore fragile, qui est encore menacée, et même asseoir la Quatrième République, face à des tentatives de retour à une monarchie, même si elle était constitutionnelle ou éclairée. Donc, du coup, on comprend pourquoi le jansénisme et pourquoi aujourd'hui, quand on utilise le qualificatif de janséniste, il y a encore un écho et les gens associent janséniste ou jansénisme à quelque chose, à la rigueur, à une rigueur religieuse. Oui. Mais c'est parce qu'en fait, il y a eu tout un travail de mythe autour de Port-Royal et des gens de Port-Royal pendant le 19e, le 20e, de la part des intellectuels, de la part de l'épiscopat français et même de la part de la classe politique.
Quand vous avez fait votre thèse et que vous étiez en train de découvrir tout cela, j'imagine que c'était votre esprit devait être dans un état d'ébullition pas possible.
Alors, il y a l'état d'ébullition quand on trouve la clé de lecture.
Oui, mais vous l'avez trouvée, justement.
Oui, mais j'ai trouvé la clé de lecture dans les derniers mois de la rédaction.
Ah, c'est-à-dire pas avant.
J'ai monté un PEULS. Et mes maîtres avaient raison en disant le jansénisme, c'est un océan sans balises. Ah oui. Vous allez vous y noyer. J'ai commencé, en fait, par découvrir le noyau dur. J'ai étudié le noyau dur. J'ai étudié ces gens. J'ai essayé de voir quelle était leur pensée. Après, j'ai essayé de voir comment ils avaient rayonné. Et j'ai donc, du coup, étudié la jansénisation dans les paroisses parisiennes. Parce que quasiment toutes les paroisses parisiennes étaient tenues par des curés qui avaient fait des études de théologie et qui avaient été moulés dans l'esprit du jansénisme au XVIIIe siècle. Et là, j'ai vu le jansénisme en action, en rayonnement, en développement dans des paroisses. Et alors après, je me suis dit, mais pourquoi en parle-t-on encore au 19e? Et du coup, j'ai avalé toute la bibliographie, j'ai essayé, j'ai pioché, j'ai été voir du côté des littéraires, j'ai été voir du côté de l'épiscopat français, des publications, j'ai brassé la bibliographie mot janséniste. Et donc j'ai été obligée d'essayer de comprendre pourquoi il y avait eu cette espèce de boule de neige et de cette mythologie autour du jansénisme. Et ce qui a été tout à fait inattendu, c'est la découverte et l'analyse des manuels scolaires de la Troisième République. Vous savez, les petits Lavis.
Oui.
Eh bien, vous regarderez les petits Lavis, vous verrez le sort qu'ils font à Port-Royal et vous comprendrez comment il y a eu un véritable réemploi. Et là, je me suis dit, on ne peut pas traiter du jansénisme au XVIIe, on est obligé de restituer, pour comprendre le jansénisme, il faut le faire à la manière de Brodel, il faut le faire à la manière de la nouvelle école historique française, qui est la meilleure au monde. Il faut faire une interprétation qui va être sur plusieurs siècles, donc de 1640, du début du XVIIe, de l'ère baroque, de la période baroque jusqu'à aujourd'hui, et voir comment un courant de spiritualité construit, tisse, se détruit, imprime, imprègne et modèle une société.
Ah oui, c'est vraiment intéressant parce que non seulement vous nous expliquez ce qu'est le jansénisme, mais encore vous nous démontrez comment vous l'avez découvert, vraiment.
Comment on fait l'histoire.
C'est ça, c'est une double conférence, si je puis dire. Si, parce que c'est vrai que j'avais du mal à comprendre pourquoi, comment vous étiez arrivé au jansénisme et comment vous pouviez faire des conférences. Et là, on comprend comment vous avez voulu travailler et on se dit que voilà un vrai travail d'historien.
Vous savez que les vrais grands maîtres de la Sorbonne disent, pour faire un véritable historien, il faut 20 ans.
Ah, j'imagine, plus.
Alors,
même.
Quand j'ai commencé, j'ai eu du mal. Je me suis dit, quand même, la barre est très haute. Pourquoi 20 ans? Mais j'ai compris pourquoi 20 ans. C'est parce qu'en fait, il faut toute une prise de recul. Le véritable historien, aujourd'hui, il fait de l'étude comme un horloger de la micro-histoire. Mais il faut qu'il fasse impérativement de la macro-histoire. Il faut sans arrêt passer du microscopique au macroscopique. Sinon, on n'aboutit pas à un véritable travail tel que l'école historique française est capable de le faire maintenant. Au 19e, on étudiait à fond des sujets. On découvrait les chronologiques, on découvrait les grands personnages, on découvrait le tissage général. On essayait de reconstituer en fait un canevas. Mais maintenant, depuis les années 1990-2000, on peut s'offrir beaucoup plus. On peut s'offrir tous les apports de la démographie, des statistiques, de la psychologie. On est donc au carrefour de toute une série de disciplines qui nous permettent d'avoir une vision beaucoup plus totale, riche et complète du passé.
Je pense que beaucoup de vos étudiants ont dû devenir des historiens.
Oui, mais on ne sait pas, vous savez, on s'aime, on voit les lumières qui s'allument dans les yeux, mais on ne sait pas après ce qui se passe. En tous les cas, tous ne font pas des thèses, parce que ça ne débouche pas vraiment sur beaucoup de professions et de métiers. Et les postes sont très peu nombreux. Oui, mais les postes sont très très peu nombreux. En revanche, tous sont ensuite fascinés par la reconstitution du passé.
Eh bien, un grand merci à vous. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci encore.
Merci, Christiane Blain.